Benoît Pelletier, ce grand ambassadeur de la justice, nous a quittés le 30 mars 2024. Une perte considérable pour le Québec, car il était, pour les Québécois, le défenseur des intérêts de notre province au sein de la Fédération canadienne. Et oui, il aurait pu être premier ministre du Québec. Et il avait cette façon de discuter des enjeux constitutionnels dans l'harmonie. Pas de ton provocateur. Il a été une personnalité politique très respectée. Benoît Pelletier, c'était un grand communicateur et quel privilège que de l'avoir connu et toute cette complicité qui a marqué nos interventions en ondes pendant 20-25 ans. Une grande amitié et les téléspectateurs l'avaient bien sûr remarqué. Je pourrais vous parler pendant de longues minutes de Benoît Pelletier, je vais le faire d'ailleurs dans ce balado, mais l'idéal, c'est sans aucun doute de réécouter un entretien qu'il m'accordait en 2006. J'étais à ce moment-là à CEPAC. Il était ministre responsable de l'Outaouais. L'émission Tête à tête passait en revue la vie des personnalités politiques de leur enfance à leur étape marquante de leur carrière. J'en ai fait 400 entrevues du genre, mais celle-là était vraiment spéciale. Et vous remarquerez que les réponses de Benoît en 2006 gardent le même ton calme, posé, que lors de mes plus récentes entrevues en 2024 à TVA, où il venait commenter l'actualité. Alors je vous offre le vrai Benoît Pelletier lors d'une entrevue à CEPAC.
Revue politique en tête à tête avec Benoît Pelletier, député provincial de l'Outaouais.
Mon invité, Benoît Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Quand on jette un coup d'œil en arrière puis qu'on retourne dans le passé, est-ce que ce sont vos parents, est-ce que ce sont vos professeurs, qui vous a façonné et qui vous a aidé à devenir ce que vous êtes?
Par rapport au personnage politique que je suis devenu, là, il y a eu une influence de mon père, parce que mon père a été candidat à l'échevinage de la ville de Québec en 1969, donc j'avais à ce moment-là 9 ans. C'est à l'âge de 9 ans donc que j'ai connu, via mon père, ma première élection. Et il a remporté cette élection-là, heureusement, et il a été conseiller municipal de la ville de Québec et même conseiller exécutif de 1969 jusqu'à 1977. Donc, pendant toutes ces années, j'ai en quelque sorte été exposé à un contexte politique, à un environnement politique. J'ai pris goût aussi parce que mon père ayant remporté donc ces élections, celle de 69 et celle de 73, j'ai associé la politique à des choses positives, j'ai associé la politique à des choses qui, dans le fond, était l'occasion de réjouissance. J'ai associé cela au succès. Et c'est comme cela que j'ai pris goût à la politique dès mon tout jeune âge. Par la suite, je n'ai pas touché à la politique pendant 20 ans. Donc, jusqu'en 1998, où là, j'ai plongé et je suis devenu candidat. Mais donc, en ce qui concerne le côté politique, c'est l'influence de mon père. Et en ce qui concerne ma carrière de juriste, ben là, c'est un peu une influence familiale parce que ma sœur étudiait en droit au même moment où j'étais préadolescent.
Et c'est à ce moment-là que vous avez la première piqûre du droit?
Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, un intérêt. Je ne dirais pas que j'ai eu la piqûre parce que je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait, mais j'avais certainement un intérêt pour le droit. Ce que je voyais du droit, c'était le côté très glamour, c'est-à-dire je voyais les avocats à la télévision plaider et je m'imaginais dans un, disons, dans une même situation, dans une telle situation. Je pensais avoir suffisamment de talent comme communicateur pour pouvoir envisager une carrière de juriste d'un côté et à ce moment-là, c'était vraiment de plaideur. Une carrière de politicien en tant que tel.
Mais la carrière de plaideur comme telle ne viendra pas parce que, dans le fond, vous avez été pas en pratique là, de défendre des citoyens.
Bien, elle est venue parce que pendant quelques années, en fait, pendant six ou sept ans, j'ai été avocat pour le ministère de la Justice du Canada. Et j'étais dans un contentieux, c'est-à-dire un bureau de plaideur. Et donc, j'avais l'occasion de représenter le gouvernement du Canada, ses différents ministères, différents organismes fédéraux, devant les tribunaux. Et même que je voyageais à ce moment-là, je voyageais un peu partout au Québec. Nous faisions les procès au Québec et nous en faisions aussi un certain nombre à Ottawa même, devant certains tribunaux. Et donc, j'ai été exposé à la pratique du droit en tant que tel et à la plaidoirie, à la préparation des procès pendant cette période-là de 6 ou 7 ans. Après laquelle période, mais là, je suis entré à l'Université d'Ottawa à temps plein, en quelque sorte. Mais donc, j'ai fait de la pratique du droit au sein du gouvernement fédéral, mais néanmoins de la vraie pratique. Nous faisions nous-mêmes toutes nos procédures judiciaires. Chaque avocat de ce contentieux-là faisait toutes les procédures comme si nous étions en pratique privée. La seule différence, c'est que nous n'avions pas à courir après les clients, en quelque sorte.
Les clients
venaient à nous, eux-mêmes. Et la différence aussi, c'est que nous n'avions pas à courir après l'argent, en quelque sorte.
Parce que vous étiez des employés de l'État.
Nous étions des employés de l'État avec un salaire fixe. Bon salaire, mais nous n'étions pas dans la même condition que les avocats de pratique privée, qui, eux, ont à courir après l'argent, mais qui ont aussi la possibilité d'en faire plus que ce que nous faisons, que ce que nous faisions, en tout cas, à l'époque.
Et c'était quelque chose que vous aimiez faire? Plaider?
Oui, beaucoup. J'ai trouvé l'expérience extrêmement enrichissante, en même temps extrêmement exigeante, parce que je dirais que la préparation d'un procès, les gens n'ont pas idée de ce que ça peut représenter comme quantité de travail. On rencontre parfois les témoins à la dernière minute. Il m'est arrivé souvent, moi, de rencontrer mes témoins la veille de l'audience, croyez-le ou non. Et donc, ça veut dire que c'est la veille, même parfois, le soir, avant la veille du procès, que là, on rencontre les témoins et que l'on se fait une idée sur comment on va présenter la preuve. Et pendant l'audience elle-même devant la cour, un tas de choses se produisent qui changent notre stratégie, qui nous obligent à réévaluer notre stratégie.
Un peu comme un entraîneur au hockey qui aurait beau avoir un plan de match.
Ouais.
Il se passe des choses.
Beaucoup.
Et vous deviez continuellement...
Oui. Oui. Vous avez des témoins d'abord qui sont plus faibles que ce que vous aviez prévu. Vous les rencontrez, ils ont l'air très forts, ils ont l'air très confiants en eux-mêmes, ils ont l'air très déterminés, ils connaissent bien leur histoire. Le lendemain, ou en, peu importe, devant le tribunal, là, à ce moment-là, ils sont trop intimidés. Donc, ils sont beaucoup moins sûrs d'eux-mêmes, commencent à hésiter, oublient des choses importantes, répondent plus ou moins bien aux questions qui leur sont posées. Donc, en quelque sorte, sont beaucoup plus faibles que ce que vous aviez prévu. Ou parfois, des versions qui changent en cours de route parce qu'ils sont contre-interrogés par notre adversaire. Leur version peut changer à un moment donné. Là où ils étaient très sûrs de leur compréhension de la situation, tout d'un coup, ça devient l'inverse. Ils sont plus sûrs du tout de ce qu'ils disent. Et donc, vous devez composer aussi avec le juge qui, donc, lui-même réagit par rapport à ce qu'il entend et vous laisse voir un peu en cours de route vers quel type de jugement il s'en va. Il y a des juges qui sont en tout cas plus transparents que d'autres, je dirais. Et donc, ça vous oblige à changer pas les témoignages, mais changer la stratégie qui entoure toute la préparation du procès. Et tout ce que vous avez mis en preuve par la suite, vous le récupérez lors de la plaidoirie. Alors, la plaidoirie est dans le fond un moment que vous utilisez pour mettre en relief toute la preuve que vous avez établie précédemment. Et donc, c'est pas un exercice où vous ne faites que parler comme ça pour convaincre. Vous devez également utiliser les éléments de preuve que vous avez établis pendant tout le procès, pendant votre plaidoirie, pour donner du relief à tout cela et en faire un tout cohérent. Alors, c'est un exercice intellectuel extrêmement riche, mais en même temps extrêmement exigeant. J'ai beaucoup aimé toutes ces années-là que j'ai passées dans ce domaine, ce fabuleux domaine, finalement, du monde juridique.
Parce que j'imagine que ce que vous venez de nous décrire là, ça va être utile plus tard en politique.
Oui, effectivement. Ben, en fait, tout ça tourne autour de la communication publique, évidemment. Alors, comprenons-nous, lorsqu'on est donc avocat et que l'on fait des plaidoiries ou des procès, bon, il y a une dimension, évidemment, communication publique qui va être utile pendant toute ma carrière. Mais néanmoins, la logique politique est complètement différente de la logique que j'ai rencontrée devant les tribunaux. Ça va de soi. Il a fallu que je m'adapte à cette logique politique-là parce qu'elle est foncièrement différente de tout ce que j'avais vécu précédemment en droit. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Alors, un jour, vous décidez de quitter cette pratique active, donc pour rentrer à l'université. Qu'est-ce qui fait ce... Quel est l'élément déclencheur?
Oui, alors je suis entré à l'université en 1990 à temps plein. Donc, j'ai commencé comme avocat de litige au ministère de la Justice de 1983 à 1990, environ 7 ans. Et par la suite, en 90, je suis entré à l'université à temps plein. Et là, j'ai donc fait partie du corps professoral. Et la raison était la suivante, c'est que de 1987 à 1990, il y a eu tout le débat sur l'accord du lac Meech. Et ce débat-là, au sujet duquel j'avais des idées, ce débat-là auquel je m'intéressais, je ne pouvais pas y participer publiquement étant un fonctionnaire fédéral. Je ne pouvais pas, en quelque sorte, dire mon mot dans le débat entourant l'accord du lac Meech, même si je m'y intéressais beaucoup, même si j'aurais pu en parler. Je ne pouvais pas donc intervenir dans le débat public parce que j'avais des contraintes qui sont celles de tout fonctionnaire. Les fonctionnaires ne peuvent pas s'immiscer dans les débats publics comme ils le veulent. Ça va de soi, surtout pas un débat constitutionnel de cette nature. Alors, dans le fond, quand le débat de Meech a commencé vers 87, là, j'ai commencé à ronger mon frein, comme on dit. J'ai commencé à trouver le temps plus long. Et je me disais toujours, ce serait bien si je pouvais intervenir dans le débat social, ce serait bien si je pouvais intervenir dans le débat politique, ce serait bien si je pouvais intervenir dans le débat constitutionnel. Et donc, je savais qu'en entrant à l'université, je pourrais le faire. Je pourrais le faire parce que l'université même valorise beaucoup cela, encourage beaucoup les professeurs à intervenir dans le débat social et dans le débat public. D'abord, ça donne la visibilité à l'université elle-même, et l'université considère que ça fait partie de cette vocation de transmettre des connaissances qui est associée, qui est reliée à la fonction de professeur, en quelque sorte. Alors, donc, je suis entré à l'université d'Ottawa en 90. Et j'ai pu participer au cours des années qui ont suivi à certains débats, notamment le débat sur l'entente de Charlottetown en 91 et en 92. Un peu plus tard, tout le débat sur le référendum au Québec de 1995.
Exact.
Jusqu'à mon entrée officielle en politique en 1998. Mais donc, de 90 à 98, j'ai pu intervenir dans des débats, j'ai pu intervenir socialement, j'ai pu intervenir dans des débats juridiques et constitutionnels grâce à mon emploi à l'Université d'Ottawa, un emploi que j'aimais beaucoup. Et cela m'a préparé tranquillement à une carrière politique.
Mais vous avez écrit en droit constitutionnel avec Gérald de Baudouin. Je me souviens d'avoir vu votre nom dans un des livres. Est-ce que c'est pendant cette période-là ou c'est avant que vous avez écrit pour M. Baudouin?
Avec M. Baudouin, j'ai écrit avant parce que j'ai commencé ma carrière à Ottawa comme assistant de recherche de Gérald Baudouin. Par la suite, lorsque je suis devenu professeur, évidemment, là, je faisais mes propres publications, ça va de soi, comme il se doit, et donc je rédigeais mes propres textes, mais pendant un certain nombre d'années, j'ai collaboré comme assistant de recherche. J'ai collaboré finalement aux travaux de Gérald Baudouin.
Mais ça, je sais que c'est
que je connais bien.
Et c'est un sujet que vous aimez beaucoup, le droit constitutionnel.
Oui, ben je pense pouvoir me qualifier de constitutionnaliste parce que j'ai fait beaucoup d'études dans ce domaine-là. C'est le domaine que j'enseigne à l'Université d'Ottawa. Et par ailleurs, j'ai fait des textes en droit constitutionnel et j'ai même enseigné à l'étranger en droit constitutionnel. Donc c'est vraiment, si on veut, mon domaine d'expertise en tant que tel.
Et vous aimez enseigner?
Beaucoup.
Pendant cette période-là?
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que l'enseignement, c'est une expérience extrêmement enrichissante parce que le professeur apprend aussi beaucoup, beaucoup des étudiants et des étudiantes. On apprend beaucoup d'eux, surtout lorsqu'on les rencontre en dehors des cours. Parce que pendant le cours, évidemment, il y a un contexte où le professeur est en position d'autorité. Il y a un stress qui est relié à l'ambiance générale, évidemment, 100 personnes et même plus parfois dans une classe. Dans le cadre des cours, c'est plus le professeur qui s'exprime et qui, dans le fond, transmet ses connaissances. Mais en dehors des cours, dans les corridors, dans notre bureau, dans différentes activités, qui se tiennent dans la faculté, on a l'occasion de mieux connaître les étudiants. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement valable parce que on a une très, très belle jeunesse. Très, très, très belle jeunesse. Et ils font des choses, les jeunes font des choses franchement merveilleuses. Différentes de celles que je faisais, moi, à leur âge. Ça va de soi. Le monde évolue. Ils font des choses merveilleuses, ils sont bourrés de talent, ils sont intéressants. Et en même temps, ils ont maintenant des opportunités fantastiques pour s'enrichir encore davantage, notamment des opportunités de voyage qui leur sont offertes et ainsi de suite. Alors, je trouvais cette relation-là avec les étudiants, pour ma part, je trouvais ça très instructif et j'avais vraiment l'impression d'apprendre beaucoup à leur contact, probablement de la même façon qu'eux apprenaient à mon contact, mais là on parle de connaissances plus scientifiques.
Comment vous avez réagi quand vous avez été choisi professeur de l'année?
J'étais très très heureux parce que c'est un processus où les étudiants ont leur mot à dire. Le processus de sélection du professeur de l'année, c'est un processus dans lequel les étudiants ont leur mot à dire. Mais également nos pairs, les autres professeurs. Les pairs portent souvent sur chacun de nous un jugement très sévère. Parce que c'est une confrérie, mais en même temps, une collégialité, mais en même temps, chacun est un professeur, donc a l'habitude d'évaluer, a l'habitude de porter des jugements. Et là, cet appui que j'ai eu de la part de mes pairs, comme de la part des étudiants, des étudiantes, du personnel de soutien, ainsi de suite, était pour moi une belle manifestation, finalement, de cette place que j'avais le sentiment de m'être faite au sein de la faculté. De ce côté-là, c'est un beau signe d'appréciation.
D'autant plus, c'est pas achetable.
Non.
On peut pas acheter ce produit-là.
Non. Et donc, c'était un beau témoignage, je trouvais, qui m'a franchement ravi et qui encore aujourd'hui constitue pour moi peut-être le témoignage le plus important auquel j'ai eu droit durant ma carrière.
Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, parce que, professeur, vous avez vos week-ends, vous avez un été de congé, j'imagine. Un jour, vous dites, non, je vais aller en politique. Comment ça se passe, le virage entre l'université et la vie politique?
Oui, d'abord, je dois dire que quand j'étais professeur, je travaillais quand même extrêmement fort. Et les gens ne peuvent pas s'en douter parfois, mais publier des textes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de réflexion. On publie ces textes-là dans des revues spécialisées. Donc, il faut avoir quand même un apport, une contribution originale. Il ne faut pas répéter des choses qui ont déjà été dites. Et donc, ça demande énormément de réflexion. Écrire un texte en tant que tel, c'est très exigeant. Alors, comme professeur, j'en faisais beaucoup de textes et je travaillais extrêmement fort. Ce qui s'est produit, cependant, c'est que à un moment donné, Jean Charest est venu au Parti libéral du Québec. Moi, à ce moment-là, j'étais en Europe. J'étais en année sabbatique en Europe. Et j'apprends que Jean Charest, donc, vient prendre la chefferie, la tête du Parti libéral du Québec. Et pour moi, ce contexte-là a donc provoqué chez moi une espèce de déclic où je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Jean Charest, qui était un individu que je n'avais jamais rencontré, mais qui m'attirait beaucoup pour ses idées, pour son style, venait dans une formation politique, le Parti libéral du Québec, qui, à mon avis, est une grande formation politique. D'ailleurs, c'est le seul parti politique qui a traversé le 20e siècle au Québec et qui est encore présent aujourd'hui, en ce début de 21e siècle. C'est pas rien. C'est la seule formation politique qui a réussi ce tour de force-là. Alors, c'est un grand parti politique, c'est un parti de compromis. C'est un parti qui est sensible à la justice sociale, mais qui, en même temps, fait la promotion de la création de la richesse. Donc, qui a rejoigné, en fin de compte, des idées qui sont chères pour moi. Alors, le fait que Jean Charest vienne au Québec, c'est un déclic pour moi. Alors, j'ai appelé à ce moment-là John Parisella d'Europe.
Donc, c'est vous qui faites les démarches?
Oui. La première, oui. Et je dis à John Parisella, je dis, écoutez, si jamais vous cherchez un candidat, je serais prêt à regarder cela. Et après ça, imaginez aucune autre nouvelle, en soi, aucune autre nouvelle. Et après cela, je reviens, donc, d'Europe, et en juillet 1998, je n'ai toujours pas de nouvelles de rien. C'est à la fin du mois d'août, au milieu du mois d'août, je reçois un appel, ou 98, me disant, M. Pelletier, M. Charest aimerait vous rencontrer à Québec. Je pense que vous savez pourquoi. J'ai dit oui. Alors, j'ai dit, je vais aller le rencontrer. Et donc, à ce moment-là, j'ai une première rencontre avec Jean Charest. J'en ai eu une deuxième quelques semaines plus tard à Montréal avec lui. Et c'est lors de cette deuxième rencontre-là que j'ai dit, j'embarque. Et donc, c'est comme cela que j'ai fait le saut en politique.
La famille, parce que vous aviez déjà, je crois, de jeunes enfants.
Oui.
Il y avait quel âge? C'est tout jeune, les enfants?
Ah oui, écoutez, ma plus vieille avait quoi? 6 ans. Et ça, c'était ma plus vieille. Alors les autres, l'autre avait 4 ans environ, l'autre avait 3 ans.
Est-ce que ça a joué en termes de considération? Là, j'embarque dans quelque chose qui pourrait affecter.
Ouais.
Parce que ça, vous n'êtes plus aussi présent que vous auriez pu l'être. Ouais.
Même, je vais aller plus loin. Je vais vous dire honnêtement que j'ai même eu peur de perdre ma famille là-dedans. J'ai eu peur que mes enfants soient affectés par cette décision-là. En même temps, on se dit, ma femme et moi, on se dit, bon, ben là, on a quand même une occasion, on va l'essayer. D'abord, c'est comme ça que ça se présente. On se dit, on va l'essayer, on va voir 4 ans. Bon, comment ça va se passer? Mais néanmoins, j'avais peur de perdre un contact avec mes enfants. J'avais peur que, bon, enfin, ma famille n'ait à en souffrir. Et heureusement, on se rend compte qu'avec les années qui passent, bon, que les enfants s'adaptent à cette situation-là et que chacun finalement y trouve son compte. Et je n'ai pas senti, après plus de 8 ans maintenant en politique, que mes enfants en ont vraiment été affectés. Si je l'avais senti, j'aurais peut-être décidé de quitter la politique avant. Mais je n'ai jamais senti qu'ils avaient vraiment été affectés par ce choix que j'ai fait d'entrer en politique.
Comment s'est vécue la première campagne électorale? Est-ce qu'elle ressemblait aux campagnes électorales de votre père?
Plus ou moins, évidemment. Là, j'étais maintenant au cœur de l'action. Et j'étais également euh, J'étais quand même sous le coup de mon adaptation à la politique, parce que le passage de l'université à la politique ne s'est pas fait facilement. Ça demande toute une adaptation. J'étais dans un monde plus intellectuel, probablement, plus théorique, à tout le moins, à l'abri des critiques également. J'étais dans un monde où j'étais complètement maître de mon agenda, parce qu'à l'université, on a beaucoup de liberté. Bien entendu, on a quelques contraintes, mais on a surtout beaucoup, beaucoup de liberté. Là, j'entrais dans un monde complètement différent, où j'avais beaucoup de contraintes, où j'avais à composer avec toute une équipe. Alors qu'à l'université, souvent les professeurs ont tendance à être plutôt solitaires dans leur travail, très nettement. J'avais à tenir un discours plus partisan. J'avais maintenant des activités sociales le vendredi soir et le samedi soir que jamais je n'aurais pensé avoir de toute ma vie. Je me retrouvais dans des environnements variés, complètement différents. Bingo, présence un bingo, mais un souper officiel, un dîner officiel, mais bon, enfin. L'adaptation à ce contexte-là n'a pas été facile. Ça m'a pris un certain nombre de mois. Donc, j'ai vécu ma campagne électorale comme un individu qui, dans le fond, cherche à comprendre un peu ce qui est en train de se passer, là. Comprenez-vous? Pour moi, c'était tout nouveau. Et donc, j'essayais un peu de comprendre ce qui m'avait amené là, en même temps. Les choses se sont bien déroulées pour moi dès le départ. J'ai été chanceux. Et par la suite, l'adaptation, je l'ai complété, sans même que personne, finalement, ne s'en rende compte, ou à peu près pas.
Est-ce que lorsqu'on parle de victoires, une première, une deuxième victoire, est-ce que elles sont différentes?
Je trouvais que oui, parce que j'ai beaucoup plus savouré la deuxième victoire en 2003, pour deux raisons très évidentes. La première raison, c'est que nous formions le gouvernement. Donc, je savais que je ne serais plus député de l'opposition. C'est déjà pas mal. C'est pas évidemment, comment dirais-je, l'enfer, être député de l'opposition, mais c'est pas ce que nous recherchons.
Quoi que c'est une bonne préparation.
C'est une bonne préparation. Mais instinctivement, chaque politicien, spontanément, recherche évidemment d'être dans un contexte de pouvoir, et non pas dans un contexte d'opposition. Et l'autre raison, c'est que je savais plus à quoi m'attendre. Évidemment, ça enlève une certaine angoisse, si je puis dire, parce qu'on sait quels sont les paramètres avec lesquels on aura à composer. On sait dans quel environnement, finalement, on se retrouvera. Donc, de ce côté-là, ça a été plus facile la deuxième.
Il nous reste une minute. Quand on devient ministre, est-ce que c'est un moment passionnant?
Oui, tout à fait. Un moment extrêmement intéressant où on a le sentiment de pouvoir là, désormais influer sur des enjeux de la société. Et je peux vous dire ceci, il y a des gens qui pensent que les ministres n'ont pas d'influence. Il y a des gens qui pensent que les ministres n'ont pas de pouvoir. Moi, je vais vous dire, c'est complètement faux. C'est sûr que le premier ministre a une influence et un pouvoir déterminant, mais les ministres aussi ont une influence sur le sort de notre société, et c'est ce qui fait que c'est un travail emballant.
Qu'est-ce qui a été la qualité que vous avez, qui vous aura le plus servi dans ce métier jusqu'ici?
Je crois réellement que c'est la ténacité, parce que dans certains cas, des choses se sont réalisées, mais après plusieurs années. En ce qui me concerne, moi, des projets que j'avais à cœur se sont réalisés après plusieurs années, des idées même, ont trouvé preneur, si je puis dire, ou ont acquis une certaine popularité, mais après plusieurs années. Cette ténacité-là à défendre les mêmes idées auxquelles je crois, à avancer les mêmes projets auxquels je crois, en dépit finalement des difficultés. Je pense que c'est la qualité qui m'a le plus rendu service jusqu'à présent en politique.
Benoît Pelletier, merci beaucoup pour cet entretien.
Ça me fait plaisir.
Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est Benoît Pelletier, et on est à ce moment-là, en 2006. Il y a d'autres conférences, d'autres entrevues accordées par Benoît Pelletier sur le site de CEPAC. Je vous invite à aller faire un tour à cet endroit où vous allez trouver plein de trucs, plein d'entrevues qu'il m'a accordées. D'ailleurs, à l'époque où j'étais à Revue politique, parce que j'ai fait 15 ans, moi, chef d'antenne ou animateur de l'émission Revue politique. Et là, on parle de milliers d'émissions de politique. Tous les soirs, donc, où le Parlement siégeait, j'étais en onde à CEPAC. Alors évidemment, quand on m'a annoncé le décès de Benoît Pelletier, ça m'a vraiment bouleversé. D'abord, c'est un décès qui m'attriste, parce que pendant plus de 20, 25, peut-être 30 ans, il a commenté l'actualité avec moi. Il faisait équipe incroyable. Il n'y a pas de mots d'ailleurs pour décrire notre complicité. Je ne sais pas d'où ça vient vraiment, mais j'ai toujours eu, moi en tout cas, un énorme respect pour sa grande franchise. Quand sa fille, lors du décès de Benoît, m'écrit et me dit « Mon père te respectait beaucoup ». Alors, les deux, je pense qu'on avait un énorme respect l'un pour l'autre. Il a toujours d'ailleurs été présent. À chaque fois que je l'appelais pour faire une entrevue, il était là. Alors, moi, je viens de perdre vraiment ce que je décris, une personne irremplaçable. C'est une personne qui, effectivement, m'a appuyé pendant mes premières années, donc à CEPAC. Il m'a encouragé pendant mes études de droit, parce que dès 2007, quand moi je suis retourné aux études, Benoît Pelletier donc a commencé à m'encourager, à dire « Pierre, lâche pas, tu t'en vas dans la bonne direction, c'est bon, tu fais tes études en droit ». Puis à travers le parcours, il m'a toujours appuyé. Il était là d'ailleurs quand ils ont organisé pour moi une fête lors de... Quand j'ai obtenu ma maîtrise en droit notarial, Benoît était à la maison quand ils ont fait un énorme party et j'ai toujours été impressionné qu'une personne aussi forte que lui me respecte autant. Et on abordait ensemble tous les enjeux politiques. Et ça, c'était l'affaire la plus incroyable. Parce que d'ailleurs, dans les dernières années où on a collaboré ensemble à TVA, ben c'est ensemble vraiment là, qu'on construisait nos capsules, les entrevues du jour à TVA. Puis c'est pas facile, hein? 3 minutes et demie, essayer de résumer une situation, bien l'expliquer pour que les téléspectateurs comprennent, mais synthétiser tout ça, là. Et on faisait un travail fantastique, lui surtout, parce que lui, il me rendait la vie tellement facile comme intervieweur. Le sujet discuté pouvait venir de moi, ça pouvait venir de lui. Et on passait à travers ce thème-là à chaque soir avec, j'allais dire, beaucoup, mais beaucoup d'efficacité. Moi, je dis quel privilège que j'ai eu de l'avoir connu. C'est une complicité là, qui a vraiment marqué toutes nos interventions, mais surtout une grande amitié. Et ça, à son décès, j'ai reçu plein de messages où les gens ont bien senti que ça me bouleversait, cette annonce du départ de Benoît Pelletier. Les téléspectateurs m'ont écrit. Je ne suis pas le seul, vous savez, à avoir eu un énorme respect pour Benoît Pelletier, juste à lire l'ensemble des témoignages entendus après son décès, là, c'était beau à voir. Et je suis persuadé que Benoît, il serait tellement fier hein, d'être avec nous, puis d'entendre tout ça, puis de dire hey, « oui, c'est vrai, j'ai fait un travail colossal dans le droit constitutionnel, ça c'est certain ». Et un homme toujours de bonne humeur, hein, où il est ouvert à répondre à toutes les questions avec franchise et une mémoire. Oh là là, une mémoire incroyable des grands événements de notre pays. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un prof de droit constitutionnel. Mais il était fantastique. Puis d'ailleurs, moi, ce qui m'a le plus marqué probablement, c'est un coup de téléphone de Benoît. Vous savez, il a été dans le coma à cause de la COVID pendant plus de 2 mois. Et quand il est sorti de ce coma, une des premières choses qu'il a faites dans les tout premiers jours, il m'appelle à la maison. Et là, on a une conversation, mais là, vraiment, là, ce qui est frappant, c'est que son cerveau fonctionnait à 100% et il n'avait rien perdu de sa spontanéité. Moi, j'étais surpris et surtout impressionné par ce coup de fil. Ça venait un peu comme consolider notre amitié en me disant « Hey, il sort du coma, puis la première chose qu'il fait, il m'appelle. Wow! » Le public de l'Outaouais a été choyé d'avoir un homme public aussi solide qui n'avait pas d'ennemis. Moi, à ma connaissance, je ne connais pas d'ennemis à Benoît Pelletier. Il avait une façon de s'entretenir avec les gens. Il les respectait, puis les gens, forcément, il respectait tous. Benoît Pelletier, c'est un constitutionniste. C'est un constitutionnaliste. Ça, d'habitude, ce mot-là, il fait peur. Mais lui, avec sa maîtrise de la langue exceptionnelle, il expliquait, il enseignait, il partageait avec nous sa passion pour le droit et son savoir. Puis, ce qui me frappe aussi, c'est que ça me vient me dire, c'est pour ça qu'à un moment donné, il a été choisi le prof de l'année à l'Université d'Ottawa. Tu as ça, je pense, une fois dans ta carrière. Ben lui, il est allé chercher cette belle reconnaissance. Alors, vous savez, les jeunes qui ont eu la chance d'étudier avec lui pour le cours de droit constitutionnel, ils ont été, eux aussi, privilégiés. Moi, je n'ai pas eu cette chance parce qu'il est arrivé, il a repris son titre de prof de droit constitutionnel l'année après que j'ai suivi mon cours de droit. Alors, je n'ai pas eu la chance de le voir à l'œuvre dans un cours, mais ça devait être spectaculaire. Un homme disponible, aimable, courtois, et il avait toujours du temps, à la fois pour moi, puis mes collègues également à TVA, ou à CEPAC, quand on avait besoin d'aide. Benoît Pelletier, il était là. Il avait tellement à offrir. Il y avait tellement de contenu à partager. J'ai toujours dit, d'ailleurs à Benoît, reste ouvert à toutes les demandes d'entrevues des autres médias. Il m'avait offert l'exclusivité de ses interventions à plusieurs reprises et je lui disais non. Garde les portes ouvertes, parce que moi personnellement, je suis contre les exclusivités imposées aux individus par nos médias. Alors souvent, un média va dire, « Ah ben là, t'es commentateur chez nous, t'as plus le droit de parler ailleurs. » Moi, je suis contre cette idée d'exclusivité. J'aime la liberté d'expression. Puis quand je lui expliquais ma philosophie, il riait. Il respectait ma vision, puis était heureux d'aller faire des contributions dans d'autres stations de télé, autres stations de radio. Mais on avait donc l'un pour l'autre un respect incroyable. Puis moi, écoutez, il m'apprenait des choses constamment. Alors un mot, évidemment, à sa famille. Je dis, Daniel, vous avez eu un mari exceptionnel. Puis aux enfants, un père fantastique. D'ailleurs, quand il termine là, mon entrevue de l'émission Tête à tête, puis qu'il dit, j'ai eu peur de perdre ma famille. Vous voyez bien là, que c'était un gars fantastique. Il avait, moi j'appelle ça une intelligence haute vitesse. C'est ça qui vient de partir du paysage de l'Outaouais. C'est un homme qui avait cette capacité de nous faire vivre des choses, de nous expliquer, puis de nous rendre ça sympathique. Hey, le droit constitutionnel, en théorie, je dirais toujours, c'est pas drôle. Mais lui avait cette façon de faire ça qui rendait ça facile à digérer. Alors, Benoît Pelletier, c'est un grand de nos actualités. Ça m'est difficile, évidemment, de mettre un terme à ce podcast parce que j'ai tellement de choses que j'aimerais raconter puis de dire que j'ai partagé avec lui. Puis au cours des prochains jours, j'aurai l'occasion de mettre probablement sur d'autres podcasts des éléments de ce qu'il a fait comme entrevue avec moi. Là, je vais essayer de récupérer certains bouts d'entrevue parce que je suis persuadé qu'il y a encore bien des choses qu'il peut nous apporter comme réflexion, parce que quand il parlait, ça valait la peine d'écouter. Benoît Pelletier, le grand ambassadeur de la justice.
Les témoignages sont nombreux pour l'ancien ministre Benoît Pelletier.
C'était vraiment plaisant de discuter avec lui.
C'est un grand allié de la francophonie canadienne.
C'est un grand Québécois, ouais.
Un homme respecté selon l'ancien premier ministre Jean Charest, qui lui rend hommage.
Tous ceux qui l'ont croisé ont toujours parlé d'un homme courtois, d'un homme respectueux.
Bon début de soirée, tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. La région a perdu un de ses grands hommes politiques durant la fin de semaine. L'ancien ministre libéral Benoît Pelletier est décédé samedi au Mexique à l'âge de 64 ans. Sa famille en a fait l'annonce via communiqué lundi, sans toutefois préciser la cause de son décès. Et encore ce soir, plusieurs personnes ont tenu à lui rendre hommage. Reportage de Louis-Charles Poulin.
Benoît Pelletier, merci beaucoup.
Merci.
Encore tout récemment, Benoît Pelletier était dans nos studios pour commenter le décès de Brian Mulroney. À peine un mois plus tard, voilà que c'est lui qui nous quitte et qui reçoit à son tour une pluie d'éloges.
Je trouve que c'est triste parce qu'il est jeune.
64, c'est pas vieux. Hein?
C'est une perte pour le Canada, pour le Québec.
C'est une personne qui était assez fidèle.
Benoît Pelletier aura représenté la population comme député de Chapleau de 1998 à 2008.
Benoît était un homme très brillant. C'est un avocat, un grand juriste, très intellectuel. Il était capable de se mélanger avec des gars comme moi ou des gars de terrain et tout ça. Puis c'est un gars qui aimait travailler en équipe. Il était très généreux de son temps. C'est un homme qui était très gentil.
Et pour la confiance.
En 2003, le premier ministre québécois de l'époque lui confère même diverses responsabilités, dont le ministère des Affaires intergouvernementales.
J'ai le souvenir d'un homme qui était surtout très rigoureux. Hein? Il avait une pensée politique. Il était très, très investi.
En 2008, il quitte l'arène politique et c'est Marc Carrière qui lui succède dans Chapleau.
Grande, grande gentillesse. Puis il était toujours prêt à aider, puis à mettre du sien. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié collaborer avec lui, travailler avec lui.
Détenteur de deux doctorats en droit, il retourne ensuite enseigner à l'Université d'Ottawa, là où il avait commencé en 1990.
C'est un des rares professeur universitaire qui est sorti de la tour d'ivoire proverbiale, puis qui est allé dans les tranchées quand il a fait de la politique.
Ses pairs le considèrent comme une véritable référence en droit constitutionnel, mais aussi un grand défenseur de la francophonie.
C'est un grand allié de la francophonie canadienne qui vient de s'éteindre.
Il avait un dévouement très important aux francophones hors Québec.
Je pense que les gens qui vont le manquer le plus, ça va être les francophones hors Québec, parce qu'il les a défendus tout au long de sa carrière.
En 2021, frappé durement par la COVID-19, Benoît Pelletier frôle la mort, mais se réveille finalement après un coma de 56 jours.
Première entrevue télévisée depuis votre sortie de l'hôpital. Je suis sûr que les gens de l'Outaouais ont une question en tête. Comment allez-vous?
Je vais très bien. Mon moral est excellent. Mais c'est vrai qu'au niveau respiratoire, j'ai des gros défis à relever.
Mais malgré cela, il continue de multiplier les entrevues sur divers enjeux d'actualité sur nos ondes par la suite.
Mon message, c'est surtout que l'Outaouais doit devenir un leader par rapport à certaines idées. Les conséquences politiques, puis il y a les conséquences juridiques.
Son décès m'attriste. Ça me bouleverse même, parce que j'ai travaillé 25 ans avec Benoît Pelletier, où on a commenté l'actualité, puis il était toujours au rendez-vous quand je lui demandais d'être présent. Et quel gentleman!
Par communiqué, sa famille, qui précise vouloir vivre son deuil dans l'intimité, souligne qu'il était un mari attentionné, un père dévoué, un amateur de randonnée, de culture et de voyage qui savourait les grands et les petits bonheurs de la vie.
Je savoure la vie au jour le jour. Une vie qui est plus belle que jamais.
Louis-Charles Poulin, RNC Nouvelles, Gatineau.
Et plus tard dans ce bulletin, entrevue complète avec l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, lui qui a bien connu Benoît Pelletier alors qu'il a occupé un poste de ministre au sein de son gouvernement. Les hommages se multiplient depuis l'annonce du décès de l'ancien ministre Benoît Pelletier. Plusieurs qui l'ont connu de près ou de loin ont tenu à souligner sa contribution à la vie publique. On en parle avec une personne qui l'a très bien connu, l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, qui est avec nous. Bonsoir, M. Charest. Merci d'être avec nous.
Merci, M. Malouin.
J'aimerais vous demander très simplement, quel souvenir vous gardez de Benoît Pelletier?
D'abord, le recrutement de Benoît en 1998 pour être candidat libéral dans le comté de Chapleau. À ce moment-là, il est un jeune professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa, déjà très populaire, connu. Il a déjà un rayonnement personnel. Alors, lorsqu'il se joint à l'équipe, c'est dans la perspective de nous aider à travailler, à construire notre position sur le plan constitutionnel et des relations intergouvernementales, tout ce qui touche le fédéralisme. Et après ça, on a travaillé en très étroite collaboration sur la rédaction d'un programme qu'on présentait aux Québécois en 2003 sur l'autonomie, sur le fédéralisme, sur l'approche du Québec. Et j'ai le souvenir d'un homme aussi qui était surtout très rigoureux. Hein. Il avait une pensée politique. Il était très, très investi sur les questions de fédéralisme. Il voulait donner une dimension nouvelle à la relation du Québec avec le reste du Canada sur le principe de l'interprovincialisme. Et il avait aussi un dévouement très important aux francophones hors Québec. Le peuple acadien, les franco-ontariens et les franco-manitobains en particulier.
Notamment été ministre des Affaires intergouvernementales sous votre gouvernement. Vous avez mentionné en fin de semaine qu'il laisse un héritage politique inestimable. Qu'est-ce qui faisait de M. Pelletier un grand politicien?
Il avait un respect des institutions politiques. Il les connaissait. Forcément, c'était son métier. Et comme il avait ce respect des institutions, il avait un respect aussi de ceux et celles qui étaient des élus. Et ça, ben, ça a marqué sa vie, sa carrière. Tous ceux qui l'ont croisé ont toujours parlé d'un homme courtois, d'un homme respectueux, d'un homme qui écoutait.
Les dernières années qui ont été un peu plus difficiles, il a été durement frappé par la maladie, par la COVID-19, mais depuis un certain temps, il continuait de commenter l'actualité dans les médias, continuait même d'enseigner le droit à l'Université d'Ottawa. Donc, malgré ce dur épreuve qu'il a vécu avec la COVID-19, il tenait à continuer à contribuer, à donner à son prochain.
Il a passé très, très, très près de mourir. Alors, à un point tel où les médecins ont conseillé à la famille d'être à son chevet. Et là, il y a eu un rebondissement, il est revenu. C'était miraculeux. Et là, ben, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui que de constater qu'il avait eu un temps, peut-être un répit, pour pouvoir vivre pleinement avec son épouse Danielle et ses enfants. Il en a beaucoup profité pour partager avec nous ses expertises, son opinion. Il a été de tous les grands sujets sur la laïcité, sur la nation. Il a même été conseiller du gouvernement fédéral sur la loi canadienne sur l'aide médicale à mourir. Donc, il était présent dans tous les grands sujets. Il laisse derrière lui aussi un héritage très important de ses écrits. Alors, à la fois quelques livres, mais également ses thèses de doctorat, ce qu'il a fait sur le plan académique et les papiers d'opinion qu'il a pu écrire de temps en temps dans les médias.
Oui, certainement une grande perte pour notre région, ici en Outaouais, mais également pour l'ensemble de la province et pour le pays. Monsieur Charest, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes ce soir pour venir nous parler des bons souvenirs avec Benoît Pelletier.
Voilà qui complète ce podcast, ce balado qui résume bien Benoît Pelletier, à la fois l'entrevue où il décrit ses débuts dans la vie, et puis à la fin, dans le fond, l'ensemble des témoignages qu'on vient d'entendre dans ce reportage du début avril, quand à TVA, on rapporte justement le décès de Benoît Pelletier et on voit là, cette vague d'amour qui a frappé l'Outaouais cette journée-là, parce que les gens n'en revenaient pas du départ de Benoît Pelletier. On le disait indestructible. Hein. C'était perdu en forêt, il a survécu. Deux mois dans le coma, il a survécu. Et là, finalement, il nous quitte. À la famille, je dis à nouveau, courage, et aux amis, dites-vous qu'on a été chanceux et privilégiés de l'avoir connu. Voilà, c'était mes mots pour résumer comment Benoît Pelletier m'a marqué.